Partie 24. Questions proposées à George Fox par certains des instigateurs de la pétition, et auxquelles il a répondu. Question, y a-t-il un seul Dieu individuel distingué en Père, Fils et Saint-Esprit, ou non? Réponse. En cela vous voudriez savoir si Dieu est individuel, oui ou non, ce qui ne vient que d'un esprit affairé. Car si vous aviez le témoignage en vous-même, vous sauriez ce qu'il est, mais les païens ne connaissent pas Dieu, et tous ceux qui ne le connaissent pas sont païens, vivant dans les mauvaises imaginations de leur propre cœur, et telle est votre condition. Car Dieu est esprit, et nul ne le connaît sinon le Fils et celui à qui le Fils est révélé. Le Fils et la parole sont un. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que l'Esprit a dit, car vous, hommes naturels, ne connaissez pas les choses de Dieu. Question. Un croyant est-il justifié par la justice de Christ imputée, oui ou non? Réponse. Celui qui croit est né de Dieu, et celui qui est né de Dieu est justifié par Christ seul, sans imputation. Question. Celui qui croit que Christ a ôté son péché est-il pur, sans péché en cette vie, comme Christ lui-même, ou non? Réponse. Celui qui croit est né de Dieu, et celui qui est né de Dieu ne pêche pas, et ne peut pas pécher parce que sa semence demeure en lui, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce présent monde mauvais. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime le Père aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et gardons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean 1:51-5 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui l'Esprit de Christ au-dedans de votre cœur qui est engendré de Dieu le garde l'homme, et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5:18 Il ne peut pas retomber dans le péché parce que Dieu le protège, il est sanctifié, protégé du mal. Question. Un croyant est-il sans aucun péché en cette vie, ou non? Réponse. Christ étant manifesté, est manifesté pour ôter le péché. Et en lui il n'y a absolument pas de péché. Celui qui demeure en lui ne pêche pas, celui qui pêche est du diable, et ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu, par ceci les enfants de Dieu sont manifestés, et les enfants du diable. Vous tous qui lisez ces questions, lisez ces choses en vous-même pour savoir si vous êtes les enfants de Dieu, ou les enfants du diable, et si vous comprenez ce que vous écrivez, oui ou non. Question. Ses œuvres, aussi bien que sa personne, sont-elles parfaitement saintes et bonnes, ou non? Réponse. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, et si la racine est sainte, les branches seront saintes aussi, et quiconque pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Mais quant à cette personne, c'est un esprit affairé en vous qui interroge sur ce que vous ne connaissez pas, car Dieu ne fait point acception de personne, celui qui fait acception de personne commet un péché, et celui qui commet un péché transgresse la loi. Question. Les saints, en cette vie, sans aucune addition par la suite, sont-ils parfaitement justes, parfaitement saints, complètement glorieux en cette vie, et ne sont-ils capables d'aucune addition après la mort, au moindre degré, mais seulement de manifestation? Réponse. Si vous saviez ce qu'est un saint, vous sauriez ce qu'est la vie d'un saint, car ils sont passés de la mort à la vie, mais vous êtes encore vivant pour le péché, et mort à la justice. Voyez si ce n'est pas ainsi. Mais celui qui est mort au péché est vivant à la justice, et il vit en Dieu, et Dieu en lui. Le Seigneur est notre justice, et il a dit, « Soyez saints comme je suis saint, car sans la sainteté nul ne verra le Seigneur. Ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas moquer. Hypocrite, ne lui mentez pas, celui qui est parfaitement saint est parfaitement juste, là où cela est révélé, il n'y a besoin d'aucune addition, car l'homme de Dieu est parfait. » Question. Les deux sacrements, le baptême et la fraction du pain, doivent-ils nécessairement continuer dans l'Église ou non? Réponse. Vous demandez ce que vous ne connaissez pas, au sujet de deux sacrements pour lesquels il n'y a pas d'écriture. Vous posez une question qui ajoute à l'écriture, et vous qui ajoutez, les plaies de Dieu vous sont ajoutées. Ceux qui entrent dans la véritable Église sont baptisés d'un seul esprit en un seul corps, mais quant à l'aspersion des enfants, il n'y a pas d'écriture pour cela, je le nie, dans la véritable Église de Dieu, on ne parle pas de telles choses charnelles. Ivrogne de votre propre convoitie et de votre orgueil, le pain que les saints rompent est du corps de Christ, il est le pain de vie. L'Église n'est pas la maison au clocher, mais l'Église est en Dieu, et ceux qui mangent le pain de vie vivent à jamais, l'Église est en Dieu, et le pain de vie s'y trouve, et cela subsistera à jamais. Question. Christ dans la chair est-il une figure ou non? Et si c'est une figure, comment et en quoi? Réponse. Christ est la substance de toutes les figures, et sa chair est une figure, car chacun passe par la même voie que lui. Celui qui vient à connaître Christ dans la chair, il faut souffrir avec lui avant de se réjouir avec lui. Christ est un exemple pour que tous marchent à sa suite, et si vous saviez ce qu'est un exemple, vous sauriez ce qu'est une figure, parvenir à la même plénitude. Question. Y a-t-il un ciel ou un enfer pour les élus ou les réprouvés après la mort, autrement qu'en l'homme dans cette vie, ou non? Réponse. Il n'y a de connaissance du ciel ou de l'enfer que par la mort, les méchants seront précipités dans l'enfer, et tous ceux qui oublient Dieu pour y être tourmentés. Il y a un enfer, vous le trouverez. Le ciel est le trône de Dieu, et les notions célestes au-dedans seront ébranlées, car Dieu est pur, et rien d'impur ne subsistera devant lui, et il a dit qu'il habitera dans l'homme. Question. Le ministère exercé par l'homme doit-il continuer jusqu'à la fin, ou non? Réponse. Le ministère du monde est le ministère de l'homme, et il ne conduit pas à une fin, mais maintient dans le temps, et cela doit avoir une fin, car ce n'est pas de Dieu. Le ministère de Dieu est d'attirer les gens à lui, mais cela n'est ni de l'homme, ni par l'homme, ni selon l'homme, car Paul a été établi ministre selon la volonté de Dieu, lui qui ne l'avait pas reçu de l'homme, et ne l'avait pas appris d'un homme, et il était ministre de l'Esprit. Mais les ministres du monde reçoivent leur savoir à Oxford et à Cambridge, et sont instruits par des hommes, et débitent une divination de leur propre cerveau, qui est de la conjuration, et ensorcellent le peuple par ces choses charnelles, comme l'aspersion des enfants, et leur parler d'un sacrement pour lequel il n'y a pas d'écriture, et dire qu'ils sont les ministres de Christ, tout en accomplissant les choses qu'il interdit, comme d'avoir la première place dans les assemblées, la première place au festin, les salutations sur les places publiques. Et voyez si vous ne soutenez pas ces antichrists, et ne dites pas qu'ils sont les ministres de Christ. Question. La parole écrite, je veux dire les Écritures, est-elle la puissance de Dieu pour le salut, pour quiconque croit ou non? Réponse. La parole écrite n'est pas la puissance de Dieu, et les Écritures ne sont pas le salut, mais celui qui croit en a la vie. Quiconque est né de Dieu ne mourra jamais, comme il est écrit, celui qui croit est né de Dieu, et celui qui est né de Dieu a en lui-même le témoignage que Dieu est la cause du salut de l'homme, et non l'Écriture ni la lettre. Réponse et déclaration de James Nelly, touchant certaines choses dont les hommes susdits l'accusaient. Ayant appris que de nombreux mensonges avaient été répandus à mon sujet par certains prêtres dans leur haute position, bien que, pour ce qui me concerne, je ne m'en remette qu'au Seigneur néanmoins, de peur que ceux qui aiment la vérité ne soient entraînés par ces faux bruits à dire du mal de choses qu'ils ne connaissent pas, j'exposerai la vérité telle qu'elle m'est révélée, concernant ces choses pour lesquelles j'ai été faussement accusé. Premièrement, concernant Jésus-Christ, qu'il est la parole éternelle de Dieu, par qui toutes choses ont été faites et sont soutenues, qui était avant tous les temps, mais a été manifesté au monde dans le temps, pour le relèvement de l'homme perdu. Parole a été faite chair, et a demeuré parmi les saints. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il a demeuré et demeure dans les saints. Il a souffert et ressuscité et monté au ciel, et siège à la droite de Dieu, à qui tout pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre. Il remplit tous les lieux. Il est la lumière du monde, mais il n'est connu de personne, sinon de ceux qui le reçoivent et le suivent, et ceux-là. Il les élève vers Dieu hors de toutes les voies, œuvres et adorations du monde, par sa pure lumière en œuvre. Ainsi il réconcilie Dieu et l'homme, et l'image de Dieu, qui est en pureté et sainteté, est renouvelée, et l'image de Satan, qui n'est que péché et souillure, est effacée. Et nul ne peut rendre témoignage de la rédemption au-delà de la mesure où Christ est ainsi révélé en lui, pour l'affranchir du péché, ce Christ, je témoigne qu'il m'est révélé en mesure. Galates 1, 16, 2 Cor 12, 5, Col 1, 27, 2 Concernant les Écritures. Quelles sont une véritable déclaration de cette parole qui était en ceux qui les ont prononcées, et qu'elles ne sont des aucune interprétation particulière, mais qu'elles ont été données pour être lues et accomplies dans les saints, comme elles ont été données par le Saint-Esprit, sans rien ajouter ni retrancher, et elles n'ont pas été données pour que des hommes en fassent un commerce afin d'en tirer de l'argent. Mais telles qu'elles sont utiles pour l'enseignement, pour la réfutation, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, pleinement équipé pour toute bonne œuvre, mais ceux qui trafiquent de la lettre et ignorent le mystère ni toute perfection. Et nul ne peut comprendre correctement les Écritures, sinon ceux qui les lisent avec le même esprit qui les a données, car l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu, car elles se discernent spirituellement. 3. Concernant le baptême, le vrai baptême est celui de l'Esprit, du Saint-Esprit et de feu. Baptisé d'un seul esprit en un seul corps, non pas l'enlèvement de la souillure de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ, sans quoi aucun autre baptême ne peut nous sauver, ceci n'étant que figure ou ombre, mais ce baptême de Christ est la substance par laquelle nous sommes baptisés dans sa mort, et ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. 4. Concernant la scène du Seigneur. La véritable scène du Seigneur est le fait de manger et de boire spirituellement la chair et le sang de Christ spirituellement, ce que seul l'homme spirituel mange, et par quoi il est nourri jusqu'à la vie éternelle. Sans cette nourriture, il ne peut y avoir de vie dans la créature, quoi que vous professiez. Et tous ceux qui mangent de ce pain et boivent de cette coupe ont une communion réelle en Christ la tête, et aussi les uns avec les autres, comme membres, et ils sont d'un seul cœur et d'une seule pensée, un corps complet en Christ. Or le monde, qui ne prend que les signes extérieurs, et n'est pas amené à discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation, et devient coupable du corps et du sang de Christ, et ils appellent cela une communion, mais vivent dans l'envie, la querelle et la dispute, se battant et se traduisant en justice les uns les autres pour des choses terrestres. 5. Concernant la résurrection, que tous ressusciteront pour rendre compte, et recevront au dernier jour selon leurs œuvres, bonnes ou mauvaises. Ces corps qui sont poussière retourneront à la poussière, mais Dieu donnera un corps comme il lui plaît, ce qui est semé dans la corruption ressuscitera dans l'incorruptibilité, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel, et comme nous avons porté l'image du terrestre, ainsi nous porterons l'image du céleste, mais la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, car il faut que nous soyons transformés. Mais ceux qui ne peuvent témoigner de la première résurrection en eux-mêmes ne savent rien de la seconde, sinon par ouï dire, et c'est pourquoi certains de vos docteurs disent que Christ est au ciel avec un corps charnel. Or que Christ, qui est les prémices, soit au ciel avec un corps charnel, et les saints avec un corps spirituel, cela n'est pas proportionné. 6. Concernant la magistrature. C'est une ordonnance de Dieu, établie pour punir ceux qui font le mal, et encourager ceux qui font le bien. Là où la justice et la droiture sont en tête et gouvernent sans partialité, ce pays est gardé en paix. Et ceux qui jugent pour le Seigneur, je les honore comme ma propre vie, non pas d'un honneur flatteur en ôtant le chapeau et en fléchissant le genou, ce qui est l'honneur du monde. Admirant la personne des hommes par intérêt, pour des fins personnelles, mais de tout mon cœur par motif de conscience envers la puissance qui est de Dieu. Car l'Écriture dit, « Celui qui fait acception de personne commet un péché, et est convaincu par la loi comme transgresseur, et l'apôtre Jacques commande aux saints de ne pas avoir la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, avec acception de personne, car disait-il, ils sont partiaux en eux-mêmes, et deviennent juges de mauvaises pensées. » Et Paul a dit, « Que toute âme soit soumise à l'autorité supérieure, car, disait-il, il n'y a d'autorité que de Dieu, les autorités qui existent sont ordonnées de Dieu, et que quiconque résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et il a dit, il faut nécessairement être soumis, par motif de conscience. » Si, bien que les prophètes aient souvent été envoyés par le Seigneur pour prononcer un jugement contre des hommes injustes, auxquels le pouvoir était confié, et qui ne jugeaient pas pour Dieu mais pour leur propre fin, pourtant, ils n'ont jamais tenté aucune violence contre eux, mais ont usé de tous moyens pour les persuader d'aimer la miséricorde, d'exercer la justice et de marcher humblement avec Dieu, afin qu'il soit établi que la colère de Dieu soit détournée d'eux, car ceux qui sont de Dieu ne peuvent se réjouir des souffrants. 7. Concernant le ministère. Les véritables ministres de Jésus-Christ ont toujours été, et sont encore, ceux qui ne viennent pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Ils ne sont pas non plus rendus aptes à l'œuvre par quoi que ce soit de l'homme, mais par Dieu seul, car le vrai ministère est le don de Jésus-Christ, et n'a besoin d'aucune addition d'aide et de savoir humain. Mais comme l'œuvre est spirituelle et vient du Seigneur, ils sont spirituellement rendus aptes par le Seigneur seul, et c'est pourquoi il a choisi des gardiens de troupeaux, des pêcheurs, des laboureurs. Et comme il leur donna un appel direct, sans le concours de l'homme, ainsi il les rendit directement aptes sans l'aide de l'homme, et comme ils reçurent le don gratuitement, ainsi ils devaient donner gratuitement. Et chaque fois qu'ils rencontraient un faux ministère, qui enseignait pour un salaire, ils s'écriaient contre eux, prononçaient des malheurs contre eux, et montraient cela comme étant dans l'iniquité, parce qu'ils pensaient que le don de Dieu pouvait s'acheter et se vendre pour de l'argent. Et Christ les appelle mercenaires, et a dit qu'ils ne se soucient pas des brebis. Et Michée s'écrie contre les prêtres qui enseignent pour un salaire, et dit-il, ils bâtissent Sion avec le sang, et Jérusalem avec l'iniquité. Et Jérémie s'écria contre les prêtres de ces jours, qui y dominaient par leurs moyens, et il appelle cela une chose horrible, et il dit que du plus petit au plus grand, ils sont tous livrés à la cupidité. Et Ésaïe s'écrie contre ceux de ces jours, et les appelle des chiens avides, qui n'en ont jamais assez, et dit-il, ils cherchent tous leurs gains de leur côté. Et Pierre a dit de ceux qui devaient venir, que par cupidité ils feraient commerce du peuple, et il a dit, ils ont le cœur exercé à des pratiques de cupidité, qui ont abandonné le droit chemin, et ont suivi la voie de Balaam, qui a aimé le salaire de l'injustice. Et Jude s'écrie, malheur à eux, car ils marchent dans la voie de Caïn, dans son meurtre, et se précipitent avidement dans l'égarement de Balaam, pour une récompense. Mais ceux que Christ envoyait comptaient comme leur gain de rendre l'évangile sans frais. Ils n'avaient jamais de moyens fixes, mais allaient de lieu en lieu, sans demeure certaine, n'étaient jamais des maîtres, mais des serviteurs de tous pour l'amour de Christ, et n'allaient jamais en justice pour des dîmes, ni pour aucune autre chose terrestre. Maintenant, peuple tous, éprouvez vos prêtres par les Écritures, pour savoir s'ils sont de Dieu ou du monde, et ne pensez jamais entendre la parole du Seigneur de la bouche de ceux qui marchent à l'encontre des Écritures. Car de tels hommes n'ont jamais été envoyés par Dieu. Car s'ils avaient été envoyés par Dieu, ils demeureraient dans sa doctrine, et Jean a dit que de tels hommes n'ont pas Dieu, mais celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, il vous est défendu de le recevoir dans votre maison, ni de lui souhaiter la bienvenue, car si vous le faites, vous participez à leurs mauvaises œuvres. Et aux méchants, Dieu a dit, « Qu'as-tu à faire de réciter mes statuts ou de prendre mon alliance dans ta bouche ? Puisque tu es l'instruction, et jette mes paroles derrière toi, et tu participes avec le voleur, l'adultère, la médisance, la calomnie et la tromperie, et de tels hommes pensent que Dieu est comme eux. » Divers détails des persécutions de James Nelly par les prêtres de Westmoreland. James, étant à une réunion chez Edward Brigg le premier jour, où beaucoup de gens s'étaient rassemblés, fut prié par divers amis de se réunir le jour suivant chez la veuve Koch, à environ 1 mile de Kendall. Les prêtres en ayant eu connaissance soulevèrent la ville de Kendall contre lui, mais comme ils mirent longtemps à se rassembler, la réunion fut terminée. Mais des espions étant postés au sommet du clocher et en d'autres endroits, on donna avis du chemin par lequel James s'en allait de là, et descendant vers Kendall, deux prêtres, accompagnés d'un juge de paix et de quelques autres magistrats de la ville, suivis d'une multitude de gens extrêmement nombreuses, le rencontrèrent, l'un d'eux disant « Nelly, j'ai un message du Seigneur Jésus-Christ pour toi, mais il n'y a pas un lieu commode. » À quoi James répondit « Le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas exception de lieu. Le message qu'il avait à déclarer était celui-ci, « Je te somme de me dire par quelle puissance tu infliges un tel châtiment au corps des créatures. » James répondit « Te souviens-tu de celui qui adjura Christ de dire s'il était le Fils de Dieu ?» et demanda par quelle autorité il faisait ces choses. Car James le vit comme étant de cette génération. Mais le prêtre continuant de le conjurer de dire par quelle puissance il le faisait, James répondit, « Reconnais-tu que cela est fait par une puissance ?»« Oui, dit-il, j'ai l'Esprit de Dieu, et par cela je sais que cela est fait par une puissance. » James dit, « Si tu as l'Esprit de Dieu, comme tu dis l'avoir, alors tu peux dire par quelle puissance cela est fait. » Le prêtre dit, « Quand Dieu vient, il vient tourmenter les âmes et non les corps. » James dit, « Il vient racheter les âmes. » Mais après beaucoup d'opposition, le prêtre commença à l'accuser, devant le juge et les magistrats, de bien des choses, comme et qu'il enseignait au peuple à brûler leur Bible, aux enfants à désobéir à leurs parents, aux femmes à leurs maris, au peuple à désobéir aux magistrats, et autres accusations semblables. À quoi James répondit, « Tu es un faux accusateur, prouve l'une de ces choses si tu le peux ici devant les magistrats. » Mais n'étant capable d'en prouver aucune, il commença à accuser James de mettre en avant une lumière qui convainc de péché, laquelle, dit le prêtre, tous n'ont pas, à quoi James dit, désigne en un dans toute cette grande multitude, qui ose dire qu'il ne l'a pas. Dit le prêtre, ceux-ci sont tous chrétiens, mais si un Turc ou un Indien était ici, il le nierait. James dit, tu vas bien loin pour une preuve, mais si un Turc était ici, il témoignerait contre toi. Le peuple commençant à se battre, le prêtre se détourna en disant, il y aura ici du trouble. James dit, « Voilà vos chrétiens, et voilà les fruits de votre ministère. » Mais le juge, avec quelques autres, s'efforça d'écarter de lui les gens grossiers, de sorte qu'ils ne purent parvenir à leur dessein en ce lieu. Mais comme ils devaient passer le pont et traverser la ville, ceux du parti des prêtres coururent devant, jurant qu'ils le jetteraient du pont dans l'eau. Mais arrivant là et voyant leur intention, il fut fortifié en son Dieu, qui lui donna l'assurance de sa protection, et le garda merveilleusement, lui et ceux qui étaient avec lui. Car lorsqu'il arriva au pont, la parole du Seigneur vint à lui, et il fut poussé à s'écrier contre leur fureur, et la puissance du Seigneur était avec lui, de sorte qu'il ne reçut aucun mal, bien qu'il ait été amené à parler tout le long, et sur la place du marché, et jusqu'à ce qu'il fût sorti de la ville. Mais la populace enragée continua à crier, hurler et lui jeter des pierres jusqu'à un quart de mille hors de la ville, mais telle était la puissance du Seigneur, que ni lui ni aucun de ceux qui étaient avec lui ne reçurent de mal. L'œuvre fut merveilleuse, et nous fûmes amenés à beaucoup l'admirer, et à louer le Seigneur, qui est béni au siècle des siècles. Une autre fois, James ayant été prié par de nombreux amis chrétiens d'être à une réunion à Horton, pour y attendre du Seigneur ce qu'il voudrait faire connaître à son peuple, s'y rendit en conséquence, et beaucoup d'amis et de frères l'accompagnèrent. Mais les prêtres ayant été informés quelques jours auparavant, 5 d'entre eux se réunirent, et beaucoup de gens vinrent de toutes parts. Un ami de la ville pria James de venir chez lui, et étant entré dans sa maison, un message fut envoyé de la part des prêtres, le priant de venir dans le champ, sous prétexte d'un lieu plus commode pour la grande multitude. À quoi James répondit, « Mon désir est que tout soit édifié, et en allant dans le champ, les prêtres vinrent avec une grande multitude, et lui demandèrent par quelle autorité il était venu là, et avait rassemblé tant de gens pour troubler la paix, et le tentant, ils dirent, « Veux-tu te porter garant qu'aucun ici ne troublera la paix ?» À quoi James répondit, « Nous ne venons pas ici pour susciter des offenses, mais si quelqu'un enfreint la loi, qu'il souffre selon la loi, car il comprit qu'il projetait la violence, comme cela apparut ensuite. Mais voyant qu'il ne pouvait l'emporter ainsi, l'un d'eux lui demanda d'aller dans l'église, comme il l'appelait, le tentant en disant, « Les gens pourront tous s'asseoir et mieux entendre. » Mais James, percevant leur tromperie, dit, « Tous les lieux lui étaient égaux, il demeurait dans le champ. » Alors ils produisirent une ordonnance du Parlement interdisant à quiconque de parler, sinon à ceux qui étaient autorisés à parler soit dans une église ou une chapelle, soit dans tout lieu public, et ils lui dirent de parler à ses risques et périls, comme il devrait répondre du mépris de cette ordonnance. À quoi il répondit, « Ceci n'est pas un lieu public. » Non, dit l'un des prêtres, n'est-ce pas un lieu public, le champ de la ville? Et il enjoignit au constable de la ville de faire son office et examina son autorité. James répondit, ceux qui sont envoyés déclarer les choses de Dieu ne tiennent pas leur autorité des hommes, mais ils lui dirent d'en apporter la preuve. Il dit, Paul n'a pas reçu sa commission de l'homme ni par l'homme. À quoi l'un d'eux répondit, c'était son évangile, mais il prouverait que Paul avait reçu un appel de l'homme pour prêcher. Et à cette fin il cita ce passage dans Actes 13:2-3, où le Saint-Esprit dit « Mettez-moi par Barnabas et Saul » et les apôtres leur imposèrent les mains, ce qui, dit l'un d'eux, était l'imposition des mains du presbytère. Mais lorsqu'il eut trouvé ce passage, James lui demanda si c'était l'appel de Paul au ministère, trois fois, mais il ne répondit rien. Alors James dit « Si c'était son appel, il avait prêché longtemps sans appel avant cela, et il en donna la preuve » Galates 1. Sur quoi cette affaire prit fin? Mais un autre prêtre se leva et dit, « Vous devez rendre compte de votre foi à quiconque le demande. » Et il posa alors plusieurs questions, auxquelles James répondit, au point que certains qui étaient là s'écrièrent, « Ne répond pas à tout, mais pose-lui des questions. » Un peu après, James lui demanda comment il prouverait qu'il est ministre de l'Évangile, tout en vivant des dîmes, à quoi il ne voulut pas répondre. « Alors, dit James, moi non plus, je ne te répondrai pas, quand bien même tu me poserais 20 autres questions. » La question suivante qu'il posa fut, « Christ est-il monté au ciel ou non ?» Mais James dit, « Je ne te répondrai pas. » Alors il cria au peuple et dit, « Il nie l'humanité de Christ, et il souleva un grand tumulte parmi les gens à ce sujet. » Mais le peuple cria, « Laissons-le parler, vous nous avez souvent dit beaucoup de choses contre lui, qu'il parle, et alors, s'il ne dit pas la vérité, vous pourrez le reprendre. » James, entendant le désir du peuple, se mit à parler, et le peuple prêta l'oreille et fut très silencieux. Mais comme il commençait à présenter Christ seul comme le maître de son peuple en esprit et en vérité, l'un des prêtres s'écria, « Je ne peux plus supporter d'entendre ce séducteur. » Alors James dit, « Prouve que je suis un séducteur devant tout ce peuple, sinon tu es un faux accusateur. » Mais il n'eut pas un mot à dire contre quoi que ce soit de ce qu'il avait dit, il déclara seulement, « Si tu ne réponds pas à la question que je t'ai posée, je t'appellerai un séducteur tant que je vivrai. » Alors, voyant qu'il ne pouvait y avoir ni paix ni liberté de parler en ce lieu, ils prièrent James d'entrer dans la maison, et ils restèrent serrés autour de lui, pour le préserver de la violence de certains qui accompagnaient les prêtres, mais ils étaient si furieux que lui et d'autres amis reçurent des coups, et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'ils parvinrent à la maison. Mais les sodomiens enragés restèrent autour de la porte pour faire du mal, et continuèrent à crier autour de la maison tout le temps qu'ils parlaient, mais la maison étant remplie de gens, ils ne purent parvenir à leur dessein. Et le Seigneur l'ordonna de telle sorte, le soir, que nous nous en allâmes sans autre mal. Mais peu après, quelques gens du parti des prêtres vinrent autour de la maison et demandèrent si Nélé était parti, et quand ils apprirent qu'il était parti, ils dirent, « Il peut remercier Dieu pour cela. » Ainsi, par la sagesse de Dieu, il échappa à leur violence cette fois-là. Mais les prêtres, ayant manqué leur dessein là, le premier jour suivant préparèrent leur sermon en fonction de ce qu'ils projetaient, persuadant le peuple qu'il était un blasphémateur, qu'il niait la résurrection et l'humanité de Christ et toute autorité, et que le Parlement avait ouvert une brèche au blasphème, et comme certains de leurs auditeurs le rapportèrent, ils rendaient à Dieu un bon service ce qui l'assommerait. Ainsi ayant excité les gens les plus grossiers, le jour suivant ils l'emportèrent auprès de quelqu'un qu'on appelait un juge de paix. Le fils du prêtre le fit venir à 12 000 de sa propre maison. C'était un homme, à ce qu'on dit, qui avait réellement porté les armes contre le Parlement pour avoir fait venir les Écossais. Après avoir armé une grande multitude contre lui le lendemain matin, ils vinrent de très bonne heure à la maison où ils se trouvaient, où beaucoup d'amis chrétiens se seraient réunis ce jour-là, et demandèrent Nélé, menaçant de lui écraser la cervelle contre les pierres du mur, et de démolir la maison s'il ne sortait pas, bien que la porte ne leur eût jamais été fermée. Mais certains entrèrent dans la maison et lui commandèrent de sortir, sous prétexte de disputer avec le prêtre. Mais James, voyant ce qu'il voulait faire, répondit, « Vous ne m'avez pas traité aussi civilement la dernière fois que j'étais parmi vous, mais si quelqu'un le souhaite, il peut entrer, les portes sont ouvertes. » Cette réponse fut rapportée au prêtre, après quoi ils se précipitèrent violemment à l'intérieur, le saisirent à la gorge, le traînèrent hors de la porte jusque dans un champ, où se trouvait un homme qu'ils appelaient un juge, et avec une fourche, ils lui frappèrent le chapeau et le firent tomber, et lui commandèrent de répondre aux questions que les prêtres voudraient lui poser. Alors le prêtre commença à poser beaucoup de questions, comme au sujet de la résurrection, de l'humanité de Christ, des Écritures, et beaucoup d'autres questions comme le sacrement, et autres semblables, auxquelles il répondit et qu'il était à part l'Écriture. Mais à la fin, comme on lui demandait si Christ était en lui, il dit qu'il en rendait témoignage en lui en mesure. Le prêtre demanda si Christ était en lui comme homme. James dit, Christ n'est pas divisé. Mais il le pressa de dire si Christ comme homme était en lui ou non. Il répondit, Christ n'est pas divisé, car s'il l'est, il n'est plus Christ, mais je rends témoignage que Christ est en moi, lui qui est Dieu et homme en mesure. Mais le prêtre dit, Christ est au ciel avec un corps charnel. À quoi James répondit, Christ remplit le ciel et la terre, et n'est pas charnel mais spirituel, car si Christ est au ciel avec un corps charnel, et les saints avec un corps spirituel, ce n'est pas proportionné, et ce n'était pas un corps charnel que celui qui vint au milieu des disciples, les portes étant fermées, car Christ est un mystère, et vous ne le connaissez pas. Puis, après beaucoup de discussions et de tentations, le prêtre n'ayant pas obtenu l'avantage qu'il attendait, il cria au peuple de ne pas le recevoir dans leur maison, et allégua à l'appui de cela la deuxième épître de Jean 1, 10. Or, combien ce passage convenait à son dessein, tous ceux qui ont des yeux peuvent le voir, car il y est interdit de recevoir dans leur maison quelqu'un qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, et ne confesse pas qu'ils ont le Père et le Fils, et ne prêche pas cette doctrine, et mais les prêtres disent que cela est blasphème. Alors le prêtre se détourna de lui, sur quoi la multitude armée commença à se montrer violente envers divers amis qui étaient là. James, entendant les amis crier, dit au juge, « Vous nous remettrez sûrement paisiblement dans la maison. » Mais le voyant s'en aller et les laisser aux mains de la multitude grossière, il s'abandonna, disant, « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Alors le juge revint en disant, « Nous le reverrons dans la maison. » Et allant vers la maison, beaucoup d'amis restèrent tout près de James, exposant leur propre corps au danger de leurs armes, pour le préserver sans dommage, et ainsi, avec beaucoup de peine, nous entrâmes dans la maison, sans recevoir beaucoup de mal. Cela fait, et tandis que James louait le Seigneur pour sa merveilleuse délivrance de leurs intentions malicieuses, certains les entendirent dire, « Si nous le laissons partir ainsi, tout le monde courra après lui. » Sur quoi ils convinrent qu'ils devaient être de nouveau amenés devant le juge, et ils vinrent avec violence, et le traînèrent dehors encore une fois. Alors le juge et le prêtre montant à cheval, ils le firent courir derrière eux jusqu'à une auberge de l'autre côté de l'eau, où ils entrèrent, ne permettant à aucun ami d'entrer avec James, et lorsqu'il se trouva devant le juge, celui-ci lui dit que s'il n'ôtait pas son chapeau, il l'enverrait en prison, et aussi parce qu'il le tutoyait, car le juge dit « Ma commission te vouvoie ». À quoi James répondit « Je ne le fais pas par mépris, car je reconnais l'autorité et je l'honore selon les Écritures, mais je ne trouve pas qu'un tel honneur soit commandé dans l'Écriture, mais plutôt interdit. » Alors ils conclurent de l'emprisonner pour cela, et aussi comme vagabond, et ils dirent que personne là ne le connaissait, ni d'où il venait, car ceux qui le connaissaient furent tenus à l'écart. Alors il dit à Anseskef, « Tu me connais, j'étais dans l'armée avec toi pendant 8 ou 9 ans. Cela n'a pas d'importance, dit le juge, tu n'es pas soldat maintenant. » Alors ils rédigèrent un mandat d'écrou pour l'envoyer en prison, et l'emmenèrent à Kirkby Stephen cette nuit-là, et l'enfermèrent dans une chambre, et mirent une garde sur lui. Mais plusieurs de nos amis les suivirent dans la ville, où une grande multitude s'était rassemblée pour la réunion. Alors le peuple sortit de la maison au clocher, où un autre avait prêché, car plusieurs prêtres s'étaient réunis ce jour-là, les uns prêchaient, les autres tramaient, et d'autres persécutaient. Le jeûne de Jézabel était une préparation à la mort de Naboth. Mais les amis, n'étant pas autorisés à entrer dans la maison où se trouvait James, ils demeurèrent dans les rues, et certains d'entre eux, poussés à parler au peuple, les prêtres voyant que le peuple prêtait attention à ce qui était dit, se plaignirent. Sur quoi on envoya des hommes, qui avec violence saisirent Francis Haugel, un ami qui parlait au peuple, et l'amenèrent dans la salle du grand prêtre, où 5 prêtres étaient assemblés, avec beaucoup d'autres de leur parti mais pas un seul ami. Et l'ayant conduit devant le juge, on lui commanda d'ôter son chapeau. Il répondit, « Je ne connais point une telle loi. » Le prêtre dit, « Il foulera aux pieds à la fois le ministère et la magistrature. » Il dit, « Vous êtes un faux accusateur, prouvez-le. » Mais quelqu'un qui se tenait là ôta son chapeau et le jeta au feu. Alors le juge dit, « Qu'est-ce donc que tu dis contre les ministres ? » Il répondit, « De quoi m'accusez-vous ? » Sur quoi l'un affirma qu'il avait dit, « Tous les ministres qui enseignent pour salaire et dans les maisons au clocher sont des ennemis et des menteurs contre Jésus-Christ et ne sont pas des ministres de Jésus-Christ. » Alors le juge dit, « Tu parles contre la loi, car la loi leur donne leur entretien. » Il dit, « Je ne me mêle pas de la loi, mais de leur pratique. » Puis Francis dit au prêtre, « Avez-vous jamais connu un ministre de Jésus-Christ qui fut persécuteur ou qui s'employa à emprisonner quelqu'un ?» Et après quelque autre discours, il dit au prêtre, « J'ai vu beaucoup de tyrannie et de persécution dans les actes de ce jour. » Alors le juge dit au peuple, « Prenez note, il a dit que la loi selon laquelle j'agis est tyrannie et persécution. » À quoi le peuple acquiesça ? Alors dit Francis, vous pouvez dire au peuple ce que vous voulez, mais je ne parle pas de la loi, je parle de vos actes. Sur quoi il fut envoyé en prison, et une garde de 8 hommes fut placée sur eux, qui passèrent la nuit à boire, à jurer, et à tenir des propos sales et impurs. Et plus le peuple les priait de prendre garde au péché, plus ils paraissaient grossiers. Mais ce sont les instruments les plus propres à exécuter les desseins des prêtres, étant membres de leurs églises. Le lendemain, ils furent escortés à la prison d'Appleby. Mais quelques amis qui suivaient ne furent pas autorisés à passer par cette rue-là, tant leur envie était grande contre tous ceux qui tournaient leur visage de ce côté. Et les prisonniers y ayant été conduits, on usa de beaucoup de moyens pour que personne ne vînt à eux, sinon ceux qui étaient envoyés pour les tenter. Là, ils furent gardés jusqu'aux assises. Pendant ce temps, on envoya dans toute la contrée chercher quiconque voudrait témoigner de quelque chose contre eux, et l'on mit en œuvre tout leur crédit à leur avantage. Un jury fut choisi. Plusieurs d'entre eux étaient résolus sur l'affaire, de sorte qu'on dit aux prisonniers ce qui adviendrait d'eux avant que le jour de l'examen n'arrivât, et il en fut ainsi. Le jour vint, et la sentence fut rendue, mais les prisonniers ne virent jamais leurs accusateurs, ni ne surent qui ils étaient, et pour ce jour-là, les prêtres avaient préparé 3 grandes pétitions bourrées des plus infâmes mensonges et calomnies, tirées du fond du puits sans fond, mais pas une seule ne fut prouvée, bien que l'un des juges leur ait dit. Il convient qu'elles soient prouvées, et il n'y avait rien en elles qu'ils pussent imputer aux prisonniers, sinon seulement ce que la puissance du Seigneur avait manifesté à leur réunion, en ébranlant la. De même, ils avaient recueilli tous les récits, vrais ou faux, d'actes commis par beaucoup dont les prisonniers n'avaient pas vu le visage, ni jamais eu connaissance, pensant par là les rendre odieux au peuple. Ils amenèrent aussi 2 prêtres du Lancashire, pour jurer des choses qu'un autre homme avait dites en présence de 4 juges de paix, et pour lesquelles cet homme avait été jugé et acquitté. Et ils les amenèrent, pensant ajouter des afflictions aux liens des prisonniers. Mais lui demeure dans une grande paix et joie, ne recevant aucun réconfort de l'homme, mais de Dieu qui lui est apparu dans cet état, et lui a donné l'assurance de son amour en qui il se repose. À lui soit la louange, l'honneur et la gloire à jamais. Amen. L'examen de James Nelly sur un acte d'accusation de blasphème aux assises d'Appleby en janvier 1652. Juge Pearson, ôtez vos chapeaux. James, je ne le fais pas par mépris de l'autorité, car j'honore le pouvoir en tant qu'il vient de Dieu, sans faire acception de personne, cela étant défendu par l'Écriture. Celui qui fait acception de personne commet un péché, et il est convaincu par la loi comme transgresseur. Juge Pearson, cela s'entend de faire acception de personne dans le jugement. James, si je vois quelqu'un en vêtements coûteux et avec un anneau d'or, et que je vois quelqu'un en habit pauvre et inférieur, et que je dis à celui qui est en bel habit, assieds-toi à une place plus élevée que le pauvre, je suis partial et jugé par de mauvaises pensées. Cole Brig, si vous étiez à la chambre du Parlement, le garderiez-vous, James? Si Dieu me gardait dans la même disposition où je suis maintenant, je le ferais. Cole Brig, je savais que vous condamneriez l'autorité, James. Je parle en présence de Dieu, je ne condamne pas l'autorité, mais je suis soumis au pouvoir en tant qu'il vient de Dieu par conscience. Juge Pearson, maintenant l'autorité vous commande d'ôter votre chapeau, qu'en dites-vous, James? Là où Dieu commande une chose et l'homme une autre, je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cole Benson, voyez si la loi le commande, ou vos propres volontés. On lut l'acte d'accusation dans lequel James était inculpé d'avoir dit que « Christ était en lui » et ce qu'il n'y avait qu'une seule parole de Dieu. Cole Brig, où êtes-vous né, James? À Hounslow, à 2 miles de Wakefield. Cole Brig, combien de temps y avez-vous vécu, James, jusqu'à mon mariage, puis je suis allé dans la paroisse de Wakefield. Cole Brig, quelle était votre profession, James? Laboureur, Cole Brig, étiez-vous soldat, James? Oui, j'ai été soldat pendant 8 à 9 ans, Cole Brig. N'étiez-vous pas à Burfort parmi les niveleurs, James? Je n'y ai jamais été, Cole Brig, je vous adjure par le Seigneur de me dire si vous y étiez ou non, James. J'étais alors dans le Nord, et je n'ai jamais été taxé de mutinerie ni d'aucune autre chose pendant que je servais le Parlement. Cole Brig, quelle fut la cause de votre venue dans ces contrées, James? Si l'on me laisse la liberté, je la déclarerai. J'étais à la charrue méditant sur les choses de Dieu, et soudain j'entendis une voix qui me disait « Sors de ton parenté et de la maison de ton père », et une promesse m'y fut donnée avec cela. Sur quoi je me réjouis extrêmement d'avoir entendu la voix de ce Dieu que je professais depuis l'enfance, mais que je n'avais jamais connu. Cole Brig, avez-vous entendu cette voix, James? Oui, je l'ai entendue, et quand je suis rentré, j'ai renoncé à mon bien, j'ai jeté mon argent, mais n'obéissant pas en partant, la colère de Dieu fut sur moi, de sorte que je fus un objet d'étonnement pour tous, et personne ne pensait que je vivrais. Mais après que j'eus été rendu disposé à partir, je commençai à faire quelques préparations, comme des vêtements et autres nécessités, ne sachant où je devais aller. Mais peu après, sortant de ma maison vers la porte avec un ami, n'ayant qu'un vieux costume, sans aucun argent, n'ayant pris congé ni de ma femme ni de mes enfants, ne pensant alors à aucun voyage, il me fut commandé d'aller vers l'ouest, ne sachant où je devais aller ni ce que j'avais à y faire. Mais après y avoir été quelque temps, il me fut donné ce que je devais déclarer, et depuis lors je suis demeuré, ne sachant aujourd'hui ce que j'aurai à faire demain. Colbrig, quelle était la promesse qui vous avait été donnée ? James, que Dieu serait avec moi, promesse dont je trouve l'accomplissement chaque jour. Colbrig, je n'ai jamais entendu un appel pareil de notre temps. James, je le crois, juge Pearson, Christ est-il en vous, James ? Je rends témoignage qu'il est en moi, et si je devais le nier devant les hommes, il me nierait devant mon Père qui est aux cieux, juge Pearson. Spirituellement, voulez-vous dire, James ? Oui, spirituellement, juge Pearson. Par la foi ou comment, James ? Par la foi, juge Pearson. Quelle différence y a-t-il donc entre les ministres et vous, James ? Les ministres affirment que Christ est au ciel avec un corps charnel, mais moi, avec un corps spirituel, juge Pearson. Lesquels des ministres disent que Christ est au ciel avec un corps charnel et James ? Le ministre ainsi nommé de Kirby Stephen, le prêtre Higginson se leva et l'affirma de nouveau ouvertement devant toute la cour, James. Si Christ est au ciel avec un corps charnel et les saints avec un corps spirituel, cela n'est pas proportionné. Et ce n'était pas un corps charnel que celui qui apparut parmi les disciples, les portes étant fermées, et qui apparut sous diverses formes. Quest Christ était-il homme ou non, James ? Oui, il l'était, et il a pris sur lui la postérité d'Abraham, et il était réellement chair et os, mais c'est un mystère que l'homme charnel ne connaît pas, car il est engendré de la semence immortelle, et ceux qui le connaissent comme spirituel, car c'est la parole qui a été faite chair, et a habité parmi nous, et s'il n'avait pas été spirituel, il n'aurait pas opéré ma rédemption. Juge Pearson, Christ est-il en vous en tant qu'homme, James ? Christ remplit tous les lieux, et il n'est pas divisé, séparé Dieu et l'homme, et il n'est plus Christ. Juge Pearson, si nous devions discuter de ces choses, il nous faudrait les ministres, James. Voyant le prêtre Higginson offensé parce qu'il avait rapporté qu'il disait que Christ était au ciel avec un corps charnel, James dit, « Ami, je ne vous aurais pas accusé si l'on ne m'avait pas demandé quelle était la différence entre les ministres et moi, car je ne suis pas venu pour accuser qui que ce soit. » Car je suis contre les accusations. Colbrig, n'étiez-vous pas d'une quelque église près de Sobey et James ? J'étais membre d'une église indépendante à Whitchurch. Colbrig, n'avez-vous pas été excommunié pour vos opinions blasphématoires, James ? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis que je suis sorti, mais auparavant à ma connaissance, non. Colbrig s'adressa à M. Coal disant, « Avez-vous jamais entendu un appel pareil ? L'avez-vous entendu ? Coal, oui, j'en ai entendu une partie. » Colbrig, n'avez-vous pas écrit un papier où il est mentionné que si vous pensez être sauvé par ce Christ qui est mort à Jérusalem, vous êtes trompé, James. Si je ne puis rendre témoignage de Christ plus près que Jérusalem, je n'aurai aucun bénéfice de lui, mais je ne reconnais aucun autre Christ que celui qui a rendu un bon témoignage devant Ponce Pilate, Christ dont je rends témoignage qu'il souffre en moi maintenant. Colbrig, nierez-vous votre écriture, James ? Je ne nierai pas mon écriture, si je puis la voir. Et je désire tant que ce papier soit gardé comme pièce à conviction, soit pour, soit contre moi. » On lut une grande pétition, dans laquelle il y avait quelque chose contre le fait de trembler et frissonner. « Juge Pearson, comment se fait-il que les gens tremblent et frissonnent, James ? Les Écritures attestent le même état chez les saints autrefois, comme David, Daniel, Habacuc et beaucoup d'autres. Juge Pearson, tombaient-ils par terre, James ? Oui, certains d'entre eux l'ont fait, Coal. » David a dit que tous ses os étaient brisés, mais ceux-ci sont entiers. James, ainsi en est-il de ceux-ci maintenant. Coal, Moïse trembla car il vit la face de Dieu, et tout Israël, James, tout Israël a-t-il vu la face de Dieu, cela contredit les Écritures. Coal, ils ont vu sa gloire. Je verrai le Seigneur avec ses yeux, mettant ses doigts sur ses yeux, James. Ils doivent d'abord être rendus spirituels, on ne peut le voir avec des yeux charnels, car il est esprit, et aucune chair ne peut voir Dieu et vivre. Coal. La lumière par laquelle je suis justifié est une lumière créée, James. La lumière par laquelle je suis justifié n'est pas une lumière créée. Coal, c'est vrai, juge Pearson. Quant à la parole, que dites-vous des Écritures, sont-elles la parole de Dieu, James ? Elles sont une déclaration véritable de la parole qui était en ceux qui les ont proférées ? Higginson, n'y a-t-il pas une parole écrite, James ? Ou lisez-vous dans les Écritures qu'il y ait une parole écrite ? La parole est spirituelle, non vue avec des yeux charnels, mais quant aux Écritures, elles sont vraies, et je leur rends témoignage comme vraies, en partie accomplies en moi, autant que j'ai grandi. Juge Pearson, pourquoi troublez-vous les ministres dans leur culte public, James ? Je ne les ai pas troublés dans leur culte public, juge Pearson. Pourquoi parlez-vous contre les dîmes, qui sont autorisées par les États, James ? Je ne me mêle pas des États, je parle contre ceux qui sont des mercenaires, en tant qu'ils sont mercenaires, ceux qui furent envoyés par Christ n'ont jamais pris de dîme, ni jamais poursuivi quiconque pour des gages, juge Pearson. Pensez-vous que nous soyons aussi misérables que les païens, que nous ne puissions pourvoir à l'entretien de nos ministres? Nous le leur donnons librement, James, son ministre de Christ, ce qui demeure reste dans la doctrine de Christ, juge Pearson, mais qui jugera comment les connaîtrons-nous, James? Vous les connaîtrez à leurs fruits, ceux qui ne demeurent pas dans la doctrine de Christ montrent par là qu'ils ne sont pas les ministres de Christ, juge Pearson, c'est vrai. Le juge Pearson devint Quaker, convaincu alors qu'il jugeait des ministres Quakers James Nelly, George Fox et Francis Raugill pour blasphème. Ci-dessous se trouve sa lettre, cher ami. J'ai longtemps professé servir et adorer le vrai Dieu, et comme je le pensais au-dessus de nombreuses sectes être parvenu à un haut degré de religion, mais maintenant, hélas. Je trouve que mon œuvre ne subsistera pas au feu. Mes notions n'étaient que des vanités enflées, sans puissance ni vie. Ce que c'était d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui maudissent, de rendre le bien pour le mal, d'user du monde comme n'en usant pas, de donner sa vie pour les frères, je ne l'ai jamais compris. Ce que signifiaient pureté et perfection, je n'en ai jamais goûté. Toute ma religion n'était que l'ouïe de l'oreille, le fait de croire et de parler d'un Dieu et d'un Christ au ciel ou en un lieu éloigné, je ne savais où. Oh, combien le Seigneur a été gracieux envers moi en me conduisant à la demeure du juge Fell, pour voir les merveilles de sa puissance et de sa sagesse, une famille marchant dans la crainte du Seigneur, s'entretenant quotidiennement avec lui, crucifiée au monde, et ne vivant que pour Dieu. J'en fus si confondu, tout mon savoir et ma sagesse devinrent folie, ma bouche fut fermée, ma conscience convaincue, et les secrets de mon cœur furent rendus manifestes, et ce Seigneur, que j'adorais dans l'ignorance, fut découvert comme étant proche. J'aurais pu parler de Christ dans les saints, l'espérance de la gloire, mais c'était pour moi une énigme. Et vraiment, cher ami, je dois vous dire que j'ai maintenant perdu toute ma religion, et je suis dans une telle détresse que je n'ai plus ni espoir ni fondement. Ma justification et mon assurance m'ont abandonné, et je suis comme un pauvre vaisseau brisé, ballotté çà et là, sans pilote ni gouvernail, aussi aveugle, mort et impuissant que vous pouvez l'imaginer. Je n'ai jamais senti la corruption aussi forte, ni la tentation aussi prévalente, que maintenant, j'ai un cœur orgueilleux dur de silex qui ne peut être sensible à ma misère. Quand je considère profondément combien de temps précieux j'ai gaspillé et combien j'ai vécu sans profit, mon esprit ressent une crainte soudaine, mais alors je me réfugie encore vers mon ancien asile, et là mes pensées sont détournées. Ce que signifie attendre Dieu, je ne puis le saisir, et les confusions de mon propre esprit, jointes aux tentations continuelles du dehors, sont si grandes que je ne puis comprendre ni percevoir la petite voix douce et subtile du Seigneur. Ce que vous m'avez dit de George Fox, je l'ai trouvé vrai. Quand vous le verrez, lui ou James Nelly, ils connaissent tous deux mon état mieux que moi-même, incitez-les si ni l'un ni l'autre ne sont attirés de ce côté, à m'aider de leurs conseils par lettre. Ils sont pleins de pitié et de compassion, et bien que j'aie été leur ennemi, ils sont mes amis, ainsi les Francis Raugill, de qui j'ai reçu une lettre pleine de tendresse et de conseils salutaires. Oh, combien les visages de l'un d'eux me seraient bienvenus! Vraiment, je crois que je pourrais mépriser le monde pour avoir communion avec eux. Mais je trouve mon cœur plein de tromperies, et je crains extrêmement d'être abusé, comme je l'ai été, et d'être séduit dans une forme sans puissance, dans une profession avant de posséder la vérité, ce qui multipliera ma misère et me privera à la fois de Dieu et du monde. Cher ami, il y a un voiturier qui vient de Candale à moins d'un mille de ma maison tous les 15 jours, et il passera chez Pete Huguin pour apporter toute lettre qui y sera laissée pour moi, cela me rafraîchirait beaucoup de recevoir quelques lignes de vous, mais soyez fidèles. Vous pouvez percevoir à mon langage d'Ashdod quel campagnard je suis, même du bas monde qui vit dans les ténèbres. J'ai peur que les ordres astérisques que nous avons faits à Appleby ne fassent souffrir certains qui parlent par la bouche du Seigneur. Astérisque, astérisque, je souhaite de tout cœur qu'ils soient supprimés ou révoqués. Je suis allé chez le juge Fell, et j'ai été informé par la femme de cette âme précieuse, Margaret Fell, en quelque mesure de ce que signifient ces choses, que j'avais auparavant tenu pour des débordements de cerveaux étourdis. Astérisque ordre, en tant que magistrat concernant des peines de prison infligées à des Quakers à la prison d'Appleby. Astérisque astérisque, ainsi voici un ancien juge, qui avait auparavant condamné des Quakers à la prison, déclarant que les premiers Quakers, et pas seulement Fox seul, parlaient par la bouche du Seigneur. Cher cœur, ayez pitié de moi et priez pour moi, et que toutes les obligations d'une ancienne amitié soient acquittées en bon vœu pour l'âme du vieil ami de la famille, afin qu'il puisse participer avec eux à vos possessions célestes. Avis, il parle de participer avec ce Quake à ses possessions célestes. C'est la preuve que la mesure du Christ chez le Quake était apparente à quiconque avait l'esprit ouvert, et que Pearson souhaitait participer avec lui à cette nature divine que le Quake lui avait manifestée. Souvenez-vous que Pearson était un juge des sessions très conservateur et respecté, qui avait envoyé des Quakes en prison, et qui fut convaincu pendant qu'il jugeait des ministres Quakers, James Nelly, George Fox et Francis Raugel pour blasphème, comme il a été noté ci-dessus. Anthony Pearson Ramshaw, près de West Oakland, le 9 jour du 5 mai 1653, accusation contre John Lawson et ses réponses, que John Lawson de Lancaster affirma le 4 décembre 1652, objection, qu'il était mort et qu'il est ressuscité, réponse, vous êtes témoin contre celui qui est ressuscité d'entre les morts, dont les apôtres furent témoins. Ici vous vous montrez témoin contre les vivants, et vous vous montrez dans la mort, et nul ministre de Christ, car les ministres de Christ justifièrent ceux qui furent relevés d'entre les morts. Alors même que nous étions morts dans nos offenses et nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ, et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De même, regardez-vous aussi comme morts au péché, mais vivants pour Dieu par Jésus-Christ, car en ce qu'il est mort une fois au péché, et en ce qu'il vit pour Dieu. Ici vous montrez que vous n'êtes pas ministre de Jésus-Christ. Celui qui croit a passé de la mort à la vie, parce qu'il aime son frère. Ici vous montrez que vous ne croyez pas, mais que vous êtes dans la mort, et dans l'envie. Ainsi vous vous montrez comme Caïn, et vous haïssez vos frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort, et vous y êtes. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 14, 15. Et telle est votre condition, et vous êtes ici un antichrist dans le monde, enviant ceux qui sont ressuscités d'entre les morts, et vous cherchez à les ramener à la mort, que Dieu a relevé de la mort. Vous ne vous êtes pas vu comme l'enfant prodigue, et pourtant l'Écriture dit « Ce mon fils était mort, et il est revenu à la vie, mais vous êtes dans le monde sans Dieu. » Objection 2. Que le jour du jugement était passé. Réponse. Christ dit « Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume, jusqu'à ce qu'il fasse triompher le jugement. » Ici vous vous montrez ignorant de l'Écriture, mais vous ne parlez que par ouïe dire, et selon l'extérieur de la lettre, et non selon Christ, et vous ne pouvez rendre témoignage de celui qui fait triompher le jugement, mais vous vous tenez comme témoin contre ceux qui attestent que les Écritures s'accomplissent en eux, et que Christ fait triompher le jugement, et ici vous montrez que vous ne connaissez pas Christ, et vous rendez manifeste votre nudité et votre ignorance. Objection 3. Qu'il avait été en enfer et qu'il est maintenant au ciel. Réponse. Ici vous vous montrez témoin contre les saints hommes de Dieu. Jonas dit, du ventre du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix, et le Seigneur le délivra de l'enfer, et ne pourrait-il pas le confesser hypocrite? Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu as délivré mon âme de la mort. Bénis l'Éternel, mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Comment osez-vous professer les Écritures et les conditions des saints hommes de Dieu, qui furent relevés et tirés de la mort, et si quelqu'un rend témoignage de la condition des saints hommes de Dieu, vous le persécutez, ô aveugle hypocrite. Ici vous montrez que vous n'avez jamais encore vu la bouche de l'enfer, par conséquent vous n'avez jamais encore crié en enfer. Objection 4. Qu'il était parvenu à la compagnie innombrable des premiers-nés, et aux esprits des justes rendus parfaits. Réponse. Paul, qui était ministre de Dieu, dit. Mais vous êtes parvenus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, à l'Assemblée générale et à l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, à Dieu juge de tous, et aux esprits des justes rendus parfaits. Paul était ministre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, qui encourageait les saints qui étaient amenés, mais vous maintenant les persécutez, et vous êtes témoins contre ceux qui confessent y être amenés. Ici vous montrez ouvertement que vous avez l'esprit d'erreur, et vous n'êtes pas ministre de Dieu, non pas même de la lettre. Mais vous êtes contre la lettre telle qu'elle parle, persécutant ceux qui en ont la vie. Objection 5. Qu'il avait entendu sonner la dernière trompette et vu la nouvelle Jérusalem. Réponse. Ici vous manifestez votre dépit et votre venin. Si Jean était ici, lui qui vit la grande ville et la sainte Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu, Jean dit. Je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, vous seriez témoin contre lui. Et vous vous montrez de la génération qui a toujours été persécutrice, calomniatrice et opposée à la puissance de la vérité. Là où se trouve le même esprit que celui qui était en Jean, il voit ces choses maintenant comme il les voyait alors. Mais là où ne se trouve pas ce même esprit, ce que vous montrez ne pas avoir, mais un esprit contraire qui persécute ceux qui voient ces choses, c'est comme un chien qui déchire et dévore. Jean entendit le son de la trompette, ce qui montre que vous n'êtes pas parvenu au premier. Sonnez de la trompette en Sion, poussez l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants de la terre tremblent. Ici vous êtes témoins contre vous-même, vous êtes témoins contre la vérité, et dans la génération de ceux qui ont toujours tué la semence juste. Objection 6. Que John Lawson disait avoir vu Dieu face à face. Réponse. Ici vous vous montrez témoins contre ceux qui connaissent Dieu, et vous vous manifestez comme un païen, car sont païens tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, et nul ne connaît Dieu sinon celui qui est né de Dieu, et ceux qui sont nés de Dieu sont possesseurs de la vérité, et ne sont pas contre elle, mais contre la tromperie. Jacob dit, « J'ai vu Dieu face à face. » Ésaïe dit, « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Job dit, « Je n'avais entendu parler de toi que par l'ouïe de l'oreille, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et Dieu parla à Moïse face à face. Ici vous pouvez prêter vos serments, et jurer contre Jacob, contre Ésaïe, contre Job et contre Moïse. Là où le même esprit est manifesté. Et quiconque est né de Dieu connaît Dieu face à face, comme eux, mais ceux qui sont nés de la chair persécutent ceux qui sont nés de l'esprit. Et ici vous montrez que vous prêtez serment et jurez contre ceux qui connaissent Dieu, cherchant à les mener en prison ou en servitude. Ainsi vous n'avez jamais lu dans toutes les Écritures que les prophètes ou les apôtres prêtaient serment contre quelqu'un qui confessait avoir vu Dieu, ni qu'ils adressaient une pétition au magistrat, ni qu'ils en témoignaient par serment contre l'un d'eux, l'ennemi. Et ici vous montrez que vous n'êtes pas ministre de Dieu, mais sans Dieu, car les ministres de Dieu doivent amener les gens à connaître Dieu, et à l'Église en Dieu, et à la Jérusalem céleste, et aux myriades d'anges. Et à exercer un ministère envers ce qui est en prison et dans la mort. Mais si quelqu'un vient à témoigner que ces choses s'accomplissent, vous êtes témoin contre par serment, et vous voudriez jeter en prison les corps de tel, alors même que la semence de Dieu est relevée de prison au-dedans, vous montrant ainsi Antichrist, persécutant. Job cria lorsque le Seigneur cacha sa face, et David cria lorsque le Seigneur cacha sa face, et dit, « Au Seigneur, je chercherai ta face. » Et ici vous montrez que vous ne connaissez ni sa face, ni ne l'avez vue, mais vous persécutez ceux qui la connaissent et la cherchent. Louange, louange au Seigneur à jamais. Fin du vol. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.